La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous parlons de Jacques Prévert cette semaine dans la Compagnie des œuvres. Il est né en 1900, tout rond, dans la ville de Neuilly-sur-Seine, où il a été élève dans les meilleures écoles religieuses. Mais l'homme sera profondément athée et plutôt attiré par la banlieue est de Paris, là où il faisait des tournées avec son père pour y visiter les pauvres. Il est mort en 1977 dans le département de la Manche, et ce mélancolique bourru nous a laissé de très beaux concentrés de poésie, et cela sous diverses formes que nous détaillons sur 4 épisodes. Hier, c'était l'émission biographique avec Hervé Hamon. Vous pouvez la retrouver notamment sur l'appli Radio France. Demain, engagement et amitié seront nos maîtres mots. Nous serons en présence de Carole Horouet. Et puis jeudi, Noël Herpe nous parlera du cinéma de Jacques Prévert, pas forcément d'ailleurs des films les plus connus. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour parcourir l'œuvre du poète, nous sommes en compagnie de Danielle Cassiglia-Laster. Elle a établi avec Arnaud Laster l'édition des œuvres complètes de Prévert dans la Pléiade. En 1993, elle avait publié déjà un essai sur son recueil Paroles dans la Foliothèque de Gallimard. En 2016, elle a publié l'ouvrage Paris Prévert, toujours chez Gallimard, ainsi que le livre Le Paris de Prévert, qu'il faut signaler sur cette même thématique, mais cette fois aux éditions Alexandrine. Allez, bienvenue à tous dans la Compagnie des œuvres.
Moi, la poésie, je ne sais pas ce que c'est, je l'ai répété souvent, j'ai écrit très tard. Je ne m'intéressais pas spécialement à ce qu'on appelle la littérature. J'ai plutôt vécu d'expédient. Pour être poli avec moi-même et avec les auditeurs.
La voix de Jacques Prévert pour ouvrir cette émission. Bonjour à vous, Danielle Cassiglia-Laster.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous à distance. On va parler avec vous de l'œuvre de Jacques Prévert, c'est-à-dire au fond de l'œuvre du poète le plus populaire de son siècle, mais qui est malgré tout une œuvre assez peu connue. En tout cas, c'est votre sentiment, n'est-ce pas, Danielle Cassiglia-Laster?
Oui, ça peut paraître paradoxal de dire que Jacques Prévert est méconnu, mais je crois qu'il l'est toujours, parce que on se cantonne très souvent quand on parle de Prévert à quelques poèmes de paroles, peut-être aux feuilles mortes, certains savent qu'il est l'auteur de cette célèbre chanson, des paroles, à quelques films, et on ne sait pas qu'il a écrit, publié quantité de livres, même bien au-delà des recueils qu'il a publiés chez Gallimard. Il a publié des livres avec les peintres, avec les photographes, avec des amis, pour les enfants, pour les adultes. Son œuvre est tout à fait considérable et je crois qu'on n'en a pas encore tout à fait mesuré, même après la publication de ses œuvres dans la Pléiade, la portée.
Est-ce que peut-être l'une des raisons est que au fond le succès de Paroles l'a desservi et qu'on l'a accusé peut-être d'un certain simplisme parce qu'il était apprécié par toutes les générations, y compris les plus jeunes?
Oui, exactement. C'est vrai que quand Parole est sortie, ça a été un très grand succès, y compris auprès de la presse, auprès des intellectuels. Et puis, Prévert est devenu populaire et donc il n'était plus à la mode, il n'était plus de bon ton d'aimer Prévert.
Oui. Alors c'est une œuvre qui est accessible, on le sait évidemment, parce que on est nombreux à avoir lu du Prévert et à l'avoir lu très jeune, mais c'est aussi une œuvre qui est subtile, assez subtile dites-vous, pour défier les sagacités les plus aiguisées. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce qui pour vous rend sa poésie subtile ?
Alors c'est une poésie qui est très subtile parce que les jeux de mots souvent sont beaucoup plus fins qu'on ne croit. Alors je vais donner un exemple. Par exemple, le sublime est corrosif. Très belle formule. Mmh. Très belle formule, mais qui est un jeu de mots. puisqu'il y a une substance corrosive qui servait autrefois de décapant, qui s'appelait le sublimé corrosif.
Donc il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément, des références culturelles qu'on a l'impression de saisir, mais il nous faut quand même une grande culture pour les saisir au fond.
Absolument. Il y a beaucoup de références aux auteurs que Prévert lisait beaucoup. Hein. C'est un autodidacte, mais qui lit énormément. Et moi, qui ai aussi travaillé sur l'œuvre de Proust, je trouve plein de références à Proust dans son œuvre. Alors là aussi, je peux donner un exemple que je trouve particulièrement frappant. Il y a un poème de parole où Prévert, le miroir brisé, où Prévert évoque un petit homme qui chante, qui casse son lacet de souliers. Et puis, tout d'un coup, il retrouve une sorte de passé à travers un miroir brisé et il entend la voix de quelqu'un à travers ce miroir. Et je me suis dit, il est tout de même un peu opaque, ce poème. Et puis, tout d'un coup, je me suis souvenu d'un passage de Sodome et Gomorre où le narrateur, en essayant de rattacher ses bottines, se souvient du moment où sa grand-mère, morte, lui rattachait les bottines comme il le fait. Et tout d'un coup, sa grand-mère lui est ressuscitée comme à travers un miroir. Et je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose. Donc, j'ai été voir la date du poème. Le poème a été écrit en juin 1945. Et la mère de Jacques Prévert est morte en février 1945. Mmh. Donc, c'est un poème sur la mère de Prévert. Et il faut passer par toute cette référence culturelle pour s'en apercevoir.
Justement,
c'est très souvent comme ça.
Puisque vous évoquez Proust, évidemment, c'est quand même deux écrivains qu'on a plutôt tendance à ne pas associer. Mais vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose de commun. Alors, il y a l'anecdote que vous venez de nous citer, mais il y a peut-être plus que ça, non ?
Oui, il y a aussi chez Prévert le sentiment que le passé peut être retrouvé à volonté. Alors par les sensations, comme chez Proust, par la mémoire, par le souvenir des êtres chers. Et quand il écrit ses souvenirs d'enfance, il y a beaucoup d'annotations qui font vraiment penser aux recherches de Proust sur le temps et sur la mémoire. Et c'était un grand lecteur de Proust.
Alors pour terminer sur un petit peu les malentendus au sujet de Jacques Prévert, il y a un petit peu deux mythes qu'il faut faire tomber à son sujet. C'est d'abord l'idée qu'il n'aurait pas souhaité se faire éditer. C'est faux ça, selon vous, Daniel Casiglia-Laster ?
Alors, disons qu'au début, il ne se préoccupe pas beaucoup de se faire éditer et il a pu lui arriver de refuser à tel ou tel éditeur parce que, disait-il, ça me compliquait l'existence. Mais c'est vrai que lorsqu'un jeune éditeur qu'il a rencontré quelques années auparavant et qui lui a semblé sympathique, René Berthelet, le contact, enfin du moins, il rencontre un ami qui lui dit « René Berthelet voudrait rassembler tes textes et les publier », eh bien là, il ne dit pas non et il appelle René Berthelet pour qu'il publie ses textes. Et puis, il publie tout de même, avant la sortie de parole, de très nombreux poèmes dans des revues très diverses, y compris des revues très intellectuelles comme la revue Commerce.
Et puis deuxième mythe à faire tomber, c'est l'idée qu'au fond, il serait un travailleur finalement assez peu assidu et qu'il écrivait toujours sur le rebord des tables de bistrot sans se corriger. C'est faux ça ?
Alors ça, c'est absolument faux. Quand nous avons travaillé à l'édition de ses œuvres dans la Pléiade avec Arnaud Laster et que nous avons eu la chance d'avoir des brouillons, hein, c'est-à-dire pas les mises au net des textes, mais les premiers jets, eh bien, on s'est aperçu que Prévert travaillait énormément ses textes, allant quelquefois jusqu'à refaire 7 fois le même paragraphe.
Et pourtant, l'impression de naturel est tellement présente qu'on a l'impression que c'est très peu retravaillé et que c'est toujours écrit d'un seul jet.
Eh bien, c'est peut-être ça qui est génial aussi. C'est arriver à trouver ce ton de la parole, le rythme de la parole, tout en travaillant les textes. Et Oui, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Et quand il répond à des interviews, par exemple, et que le texte doit être publié, il le retravaille pour la publication.
Allez, un exemple, justement, de ce que ça donne.
Ceux qui pieusement, ceux qui copieusement, ceux qui tricolorent, ceux qui inaugurent, ceux qui croient croire, ceux qui croient croire, ceux qui ont des plumes, ceux qui grignotent, ceux qui andromaquent, ceux qui dreadnoughtent, ceux qui majusculent, ceux qui chantent en mesure, ceux qui brossent à reluire, ceux qui ont du ventre, ceux qui baissent les yeux, ceux qui savent découper le poulet, ceux qui sont chauves à l'intérieur de la tête, ceux qui bénissent les meutes, ceux qui font les honneurs du pied, ceux qui debout les morts, ceux qui baïonnettent ont, ceux qui donnent des canons aux enfants, ceux qui donnent des enfants aux canons, ceux qui flottent et ne sombrent pas, ceux qui ne prennent pas le piré pour un homme, ceux que leurs ailes de géants empêchent de voler, ceux qui plantent en rêve des tessons de bouteilles sur la grande muraille de Chine, ceux qui mettent un loup sur leur visage quand ils mangent du mouton, ceux qui volent des œufs et n'osent pas les faire cuire, ceux qui ont 4810 mètres de Mont Blanc, 300 de Tour Eiffel, 25 centimètres de Tour de Poitrine et qui en sont fiers, ceux qui mamellent de la France, ceux qui courent, volent et nous vengent, tout cela et beaucoup d'autres, entraient fièrement à l'Élysée en faisant craquer les graviers. Tout cela se bousculait, se dépêchait, car il y avait un grand dîner de tête et chacun s'était fait celle qu'il voulait.
La compagnie des œuvres sur France Culture et ce texte tentative de description d'un dîner de tête à Paris, Louis, lu par Jean-Louis Trintignant. On est là avec un Prévert surréaliste de toute évidence, mais où le fantastique prend racine dans la réalité. C'est comme ça que vous pourriez le caractériser, Daniel Gassiglia-Lester?
Oui, très souvent, dans les longs textes de Prévert, on a comme ça le réalisme qui côtoie le fantastique. C'est très fréquent chez Prévert. Il est à la fois marqué par son passage par le surréalisme et par son passage au groupe Octobre, petite troupe d'acteurs amateurs d'agitprop.
Alors, on va commencer par le surréaliste, parce que chronologiquement, c'est par cela qu'il commence. On peut dire qu'il a fait ses humanités dans la rue, mais qu'il les a faites aussi dans le surréalisme et même dans le groupe surréaliste.
Oui, c'est ce qu'il disait, j'ai fait mes humanités avec les surréalistes et je crois qu'il partageait avec eux beaucoup de choses, le côté rebelle, contre les institutions, et puis ce goût du rêve, ce goût du merveilleux, du fantastique, de l'étrange. Ça, c'est quelque chose de très important chez Prévert, qu'on oublie peut-être parfois, hein. C'est vrai qu'on parle plus souvent du Prévert réaliste, du Prévert des textes courts, mais il y a ce côté chez lui fou, fantastique.
Mais il le garde toujours finalement, ce côté surréaliste justement, même s'il s'écarte ensuite du groupe surréaliste.
Ah, il va le garder dans tous ses textes. Bon, vous avez un grand texte dans Paroles qui a pour titre La crosse en l'air, où on part vraiment du réalisme. C'est l'histoire d'un veilleur de nuit. Et puis, petit à petit, le texte va entrer dans une sorte de merveilleux. Et se mêle dans ce texte le merveilleux, le fantastique, le réalisme, le plus trivial, l'actualité de l'époque. Et Prévert brasse tout ça et en fait un texte absolument incroyable que je conseille vraiment de lire.
Il faut dire que ce qu'il aime aussi, c'est beaucoup s'amuser et on s'amuse avec les surréalistes, dont il fait partie au départ, mais dont il faut dire qu'il est surtout libre. Et on a entendu dans le texte précédent à quel point l'humour est aussi très important pour lui.
Ah ben l'humour, je crois que c'est indispensable pour Prévert. Il ne supportait pas le manque d'humour. Et tous ses textes, même parfois les textes les plus sombres, ont toujours une note d'humour. Pour lui, l'humour, c'est indispensable, c'est vraiment un supplément de vie.
C'est ce qui permet de vivre, en fait, peut-être tout simplement, de supporter la vie.
De supporter la vie, puis de ne pas se prendre peut-être soi-même trop au sérieux aussi. Mmh. Il y a un poème qu'il a écrit pour sa femme, où il dit « Ils riaient, ils étaient d'eux-mêmes ». Bon, c'est un très joli jeu de mots. Ils étaient d'eux-mêmes D-E-U-X, mais ils riaient aussi d'eux-mêmes D-E-U-X, c'est-à-dire qu'il faut aussi cette dérision de soi-même pour pouvoir s'amuser et puis pour pouvoir avancer.
Mmh. Est-ce que ce rapport à la poésie surréaliste, ce n'est pas ça aussi qui rend son univers accessible à l'imaginaire enfantin? Parce que finalement, être surréaliste, c'est peut-être refuser un peu la logique conformiste des adultes.
Oui, très certainement. Et d'ailleurs, Breton appréciait cela en Prévert. Il disait il a gardé le réservoir de révolte de l'enfance. Et puis cette faculté d'émerveillement, cette faculté de rêver à un monde imaginaire. Et ça, on le retrouve dans de nombreux textes, comme les contes pour enfants passage, l'opéra de la lune. Et puis, comme je le disais, aussi à travers des textes plus sérieux hein, et apparemment plus réalistes au départ.
Mais voici d'abord un extrait de l'opéra de la lune.
Il était une fois un petit garçon qui n'était pas gai. Il n'y avait pas beaucoup de soleil là où il habitait. Il n'avait jamais connu ses parents. Il vivait chez des gens qui n'étaient ni bons ni méchants. Ils avaient autre chose à faire. Il n'avait pas le temps. Il y avait une autre fois un petit garçon qui souriait très souvent la nuit, en dormant. C'était une autre fois, mais c'était le même petit garçon. On l'appelait Michel Morin, le petit garçon de la lune, parce que lorsqu'il avait la lune, il était content. Je la connais, disait-il, on est amis tous les deux, et même quand elle ne vient pas le soir, je n'ai qu'à fermer les yeux, et je la vois dans le noir de la nuit. Elle est toujours là pour moi. Et quand je dors, j'ouvre tout grand les yeux en dormant. Et je me promène avec elle. Elle me montre des choses très belles dans mon sommeil. Par exemple, lui demandaient les gens. Le soleil, répondait Michel Morin. Et il s'endormait en souriant. Décidément, disaient les gens, cet enfant est un écervelé. Toujours dans la lune, il déménage. Il faudrait lui meubler l'esprit, lui mettre du plomb dans la tête. Et comme il parlait fort, Michel Morin les entendait se réveiller et leur poser des devinettes. Qu'est-ce qui pèse plus lourd, un kilo de plomb dans la tête ou un kilo de plume sous la tête, dans l'oreiller, quand on rêve?
Mon lune, chanson, rivière, river, garden. Petite house, little maison.
C'est Prévert qui lisait lui-même cet extrait de l'opéra de la Lune. C'est lui aussi qui a écrit les paroles de la chanson qu'on entend. Qu'est-ce que vous retenez, vous, Daniel Cassiglia, Laster, de cet opéra de la Lune qu'on vient d'écouter?
Eh bien, je crois que c'est une sorte d'hymne à l'imagination. Hein. Prévert croit en la toute force de l'imagination. Il a dit quand on raconte des histoires, eh bien, elles sont vraies, elles deviennent vraies. Il suffit d'y croire. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très très important chez lui, l'imaginaire, le rêve, l'invention, la fiction.
Et du coup, le rejet de la raison résonante.
Et le rejet de la raison résonante, oui, oui. D'ailleurs, il ne se disait pas réaliste, hein, peut-être justement parce qu'il était passé par le surréalisme. Il trouvait que l'art réaliste, enfin, ça n'existait pas. À partir du moment où vous écrivez, à partir du moment où vous dessinez, eh bien, vous créez tout de même autre chose. Mmh. Ce n'est jamais exactement la reproduction de la réalité. Et ça, c'est quelque chose qui revient de temps en temps chez lui.
Alors, il ne voit pas le monde comme tout le monde, comme les autres. Par exemple, les animaux, il ne les regarde pas de la même façon qu'on les regardait à son époque. Maintenant, peut-être qu'on les regarde un peu plus comme lui à l'époque, mais il avait une façon très spéciale d'envisager le rapport avec les non-humains.
Il a une énorme tendresse pour le monde animal. Il a écrit de très beaux textes sur eux. Je pense notamment au livre « Des bêtes ». Accompagné des merveilleuses photos d'Ila. Et il pense qu'au fond, nous sommes nous aussi hein, des animaux qui ne nous conduisons pas forcément mieux que les animaux parfois, que ce qu'on appelle les bêtes.
Ouais. Même les végétaux, hein, quand je parlais des non-humains, il est très attaché au monde végétal, un peu comme chez le douanier Rousseau d'ailleurs, qui est un peintre que Breton appréciait beaucoup.
Oui, et lui aussi. Il aime beaucoup Douanier Rousseau et notamment la bohémienne endormie de Douanier Rousseau. Oui, oui, il aime bien les fleurs, les arbres. Il a écrit un grand texte qui est un hymne aux arbres, hein, arbres, où il imagine la révolte des arbres contre les humains.
Et puis il y a le poème « Les animaux ont des ennuis ». Ben oui, ils en ont eux aussi, qui date de 1928 et qui est sans doute aussi... Je ne sais pas si on peut dire subversif, parce que on peut parler de subversion au moins esthétique quand même quand on pense à Prévert, Daniel Cassiglia-Laster.
Oui, alors c'est peut-être subversif parce que là aussi, il imagine que une vache s'échappe avec l'armoire normande.
C'est du réalisme pur, ça.
Ce texte est à la fois surréaliste avec des petites touches de réalisme, comme très souvent chez lui. C'est le premier texte connu de lui. Hein. C'est vraiment son tout premier texte connu. Alors peut-être en a-t-il écrit d'autres, mais en tout cas, c'est le premier qui nous est parvenu.
Oui. Alors je parlais de subversion esthétique. Il faut peut-être en dire un mot quand même, parce qu'il y a un mélange chez lui de réel et de surréel. Et puis, il y a cette réalité qui semble un petit peu photographique. En fait, c'est assez difficile de définir un genre chez Prévert.
Ah, de toute façon, il s'y refuse. Hein. Il pratique constamment le mélange des genres. Il ne voulait pas être publié dans la collection Poésie chez Gallimard parce que ses recueils sont un mélange de plusieurs genres. Il y a des textes qui se rapprochent effectivement de la poésie. Il y a quelquefois de courts scénarios de films, des petites pièces de théâtre, de longs textes en prose. Tous les genres sont vraiment brassés dans les recueils de Prévert.
Et ça fait partie vraiment de la définition de son esthétique, ce brassage des genres. Est-ce qu'il le revendiquait ?
Oui, il le revendiquait parce qu'il avait horreur de toute façon de tout ce qui pouvait être figé, étiqueté. Hein. Et il nous dit constamment qu'il faut tout bouleverser, reconstruire. C'est ce qu'on va trouver d'ailleurs dans ses collages. Hein. Il part d'images qui existent, et puis il va les déconstruire pour reconstruire une autre image. Donc il faut constamment réinventer le monde.
C'est pour une représentation burlesque de la vie que vous avez fabriqué tous ces collages qui sont par centaines dans les tiroirs de ce bureau?
Mais non, c'est pas burlesque, c'est des images, c'est des histoires. Raconter, c'est moins l'expression, raconter une histoire. On dit une image en termes poétiques, on peut le faire avec des ciseaux, des couteaux, n'importe quoi.
S'il n'y a pas d'univers Prévert, il y a des personnages Prévert. Les images qui sont reproduites sur vos collages, c'est un peu votre vision de la société ?
C'est pas une vision de la société, c'est-à-dire que c'est des images. Par exemple, je vois une image qui me plaît. Je dis tiens, elle me plaît. Puis je la mets quelque part, dans un carton, mettons. Puis je reviens au même endroit, plus tard, marche à la ferraille, mettons. Et j'en vois une autre. Je dis, tiens, celle-là, elle attendait celle-ci, ou celle-ci attendait celle-là. Et puis je les mets ensemble, et puis elles vont très bien ensemble.
Oui, mais on y retrouve tout de même vos grands thèmes.
Soit des thèmes, des grands thèmes, si vous voulez, mais comme moi, je n'en connais pas. Ni mes anathèmes, ni mes antithèmes, ni mes chrysanthèmes. Moi, personnellement, ce qu'on retrouve, c'est, évidemment, les gens racontent toujours la même chose d'une façon différente.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et cet entretien avec la radio-télévision suisse qui date de 1961, la subversion esthétique, Daniel Cassiglia-Laster, elle passe donc aussi par ces collages où il mélange un peu tout, les époques, les styles, les imaginaires. Par exemple, il y a des collages où on voit le métro parisien avec des personnages de la Renaissance, par exemple. Donc c'est quoi ? C'est un pied de nez ? Ou alors c'est de la poésie ? Ou alors c'est de l'esthétique ? Ou alors c'est du pop art même ? Qu'est-ce que c'est ?
C'est tout ça à la fois. Je crois que ça l'amusait beaucoup. Hein. Au départ, il a fait ça pour s'amuser, comme quand il écrivait ses textes, c'était au départ pour s'amuser. Et puis petit à petit, ben, il y a pris tellement goût qu'il a continué. Et là encore, on y retrouve sa subversion, puisque Il déconstruit et il reconstruit. Et par exemple, on a un collage que j'aime beaucoup qui s'appelle L'enclume de mer, qui ressemble tout à fait à ses textes. Enfin, il y fait la même chose que dans ses textes. Il inverse l'image et il met quelqu'un qui est sur une barque qui se met à naviguer dans le ciel. Et c'est la mer qui devient le ciel. Et cette inversion, on va la retrouver aussi très souvent dans ses textes. Il y a inversion, déconstruction. Il aimait beaucoup l'image du puzzle. Mm-hmm. Le puzzle qu'on reconstruit, mais on le reconstruit pas comme il était au départ.
Et c'est là qu'on se rend compte qu'il a quand même beaucoup fréquenté les peintres, les plasticiens. Ces collages pourraient avoir quelque chose des collages de la période aussi cubiste de Picasso, par exemple.
Oui, et Picasso les admirait beaucoup, d'ailleurs, les collages de Prévert. Il lui disait « tu ne sais pas peindre, mais tu es peintre », parce qu'il avait le sens des couleurs, de l'assemblage. Et ils sont très, très réussis, finalement, et je crois qu'ils ont été appréciés par beaucoup d'amis peintres de Prévert.
Est-ce qu'il y a du Warhol aussi, avant Warhol, là-dedans ?
Oh ben, très certainement, côté dérision... qu'on retrouve dans de nombreux collages, anticipe déjà sur certaines œuvres de Warhol, très, très évidemment.
Subversion esthétique, subversion sociale aussi. Alors là, c'est le Prévert révolté dont vous parlez également, Daniel Castiglia-Laster, dans la préface que vous avez donnée aux œuvres complètes de Jacques Prévert dans la Pléiade. Pour le comprendre, il faut remonter un petit peu au groupe théâtral Prémisse, qui va devenir le groupe Octobre. On a déjà parlé un petit peu hier, mais est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu de quoi il s'agissait ?
Alors, le groupe Octobre, c'était une petite troupe d'acteurs amateurs qui allait dans les rues, sur les lieux de travail des ouvriers, un peu partout, pour les encourager dans leur révolte, dans leur grève, dans leurs revendications. Et Jacques Prévert, à ce moment-là, écrit en rapport direct avec l'actualité du moment. C'est-à-dire qu'il y a une grève chez Citroën. Il écrit un texte sur la grève chez Citroën.
Donc il faut écrire très rapidement, très très vite.
Il faut écrire très rapidement à cette époque, ce qui ne l'empêche pas après de réécrire le texte et de le peaufiner. Il y a toujours là aussi un premier jet, et puis dans un second temps, il le corrige, il le transforme, il l'améliore.
Mmh. Donc c'est un théâtre anti-bourgeois, est-ce qu'on pourrait dire ça ?
Oui, on pourrait dire ça. Un théâtre anti-bourgeois, un théâtre ouvrier, un théâtre politique, politique de gauche. Il y a un petit peu toutes les composantes de la gauche qui participent à ce théâtre. C'est en tout cas un théâtre, alors je ne dirais pas engagé, parce que Prévert n'aimait pas ce mot, il trouvait que c'était trop militaire.
Ou trop militant ? Enfin, il n'aimait ni l'un ni l'autre.
Il n'aimait pas le mot engagé et le mot militant. Voilà, tout ce qui pouvait se rapprocher au militarisme, ça ne lui plaisait pas.
Et puis à l'embrigadement, quel qu'il soit, y compris dans un parti.
Exactement.
Pourtant, tout cela ne l'empêchait pas, évidemment, d'avoir une vision sociale et de le raconter dans ses textes.
Elle remue doucement la mâchoire, doucement. Elle grince des dents doucement. Car le monde se paye sa tête. Il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer. Ça dure. 3 jours, 3 nuits, sans manger. Et derrière ses vitres, ses pâtés, ses bouteilles, ses conserves, poissons morts protégés par les boîtes, boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte. Que de barricades pour 6 malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot. Café crème et croissant chaud. L'homme titube. Et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots. Un brouillard de mots, sardines à manger, œufs durs, café crème, café arrosé, rhum, café crème, café crime, arrosé sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs. Soit un café arrosé, 0,70 francs, 2 tartines beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce bruit. quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim.
La grâce matinée, extrait du recueil Parole, élu ici par Serge Reggiani. C'est une chronique sociale aussi qu'on entend là, Daniel Castiglia-Laster.
Oui, c'est un texte terrible, l'histoire de ce chômeur, toujours d'actualité d'ailleurs. Et Prévert va parler pour les gens qui sont au chômage, les gens au bas salaire, comme il dit, pour ceux, écrit-il dans le Dîner de tête, qui en ont trop à dire pour pouvoir le dire. C'est pour eux que Prévert écrit avant tout, d'abord.
Et puis aussi à l'international, pour le peuple espagnol qui résiste à l'insurrection franquiste, par exemple.
Exactement. Le poème « La crosse en l'air » dont je parlais tout à l'heure a été écrit d'abord pour encourager les républicains espagnols dans leur lutte contre les franquistes. Il est toujours du côté des opprimés, du côté de ceux qui souffrent, du côté de ceux qui ont faim, du côté de ceux qui ne sont pas riches, toujours.
Alors tout à l'heure, vous avez parlé d'histoire, quand vous avez expliqué que c'était l'histoire de ce chômeur qui était toujours d'actualité. Et ce mot d'histoire est très important parce que on pourrait croire qu'un poète ne raconte pas d'histoire, mais lui, et on l'a très bien entendu à l'instant dans cette lecture, raconte aussi des histoires.
Il veut raconter des histoires. Prévert est pour le récit, pour l'histoire. Hein. Ces poèmes sont pas du tout des poèmes abstraits. Et je crois que tous ces textes sont des petites histoires. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça plaît tellement au public, aux lecteurs. Même quand il parle des peintres, il raconte des histoires. Moi j'aime beaucoup le poème qu'il a écrit. Le poème, c'est plus qu'un poème, c'est un livre sur Joan Miró. Mmh. Où il raconte la vie de Miró et ça devient vraiment une histoire. Et en parlant de Miró, il parle de lui d'ailleurs, c'est très intéressant.
Donc c'est quelqu'un qui s'intéresse aux arts et en même temps c'est pas un intellectuel. Il y a peut-être même quelque chose d'un peu anti-intellectuel chez lui.
Oui, il se méfie des intellectuels, des gens pédants qui coupent les cheveux en quatre et puis surtout qui regardent de haut ceux qui ne sont pas intellectuels. En revanche, il défend la littérature. Mmh. Et ça à plusieurs reprises. Il y a un très beau texte qui a été écrit pour la libraire Adrienne Monnier. Où il fait vraiment une sorte de défense et d'hymne à la littérature. Et ça, c'est quand même très intéressant. Hein. Prévert est littérateur et se dit littérateur.
Mais il est resté un petit peu en marge du mouvement intellectuel de Saint-Germain-des-Prés.
De toute façon, il ne souhaite appartenir à aucun mouvement. Hein. C'est toujours sa liberté. Par exemple, quant au Flore, il rencontre Simone de Beauvoir et Sartre. Eh bien, ils ont des rapports très courtois. D'ailleurs, Simone de Beauvoir parle de façon très positive de Prévert dans ses mémoires, mais simplement c'est pas le même monde, et lui il côtoie plutôt des amis très simples qui sont pas des gens connus et beaucoup les peintres aussi. C'est vrai qu'il a beaucoup d'amis peintres.
Et d'ailleurs il y a quelque chose en effet de plastique dans sa poésie et dans ses textes.
De très plastique et puis il est très, je crois, influencé par son travail pour le cinéma. Ces textes sont souvent écrits comme des scénarios de films avec une succession de plans, de choses vues qu'on voit. Enfin, il donne à voir très souvent. Mmh.
Donc, il cherche à échapper au fond au pur formalisme, et cela aussi, finalement, l'éloigne d'un intellectualisme un peu trop pur qu'il considérerait sans doute comme étant un peu rébarbatif.
Absolument, absolument. Il veut être lu par tous. Alors, pour les, il écrit aussi pour les plus érudits, hein, puisque les références dont je parlais tout à l'heure à Proust sont pas forcément comprises par tout le monde. Mais il y a dans les textes de Prévert plusieurs lectures possibles, je crois. Il y a une lecture au premier degré, très accessible. Et puis, quand on fouille, eh bien, on trouve d'autres choses. Et c'est peut-être ça aussi qui est intéressant.
C'était un grand dîner de première communion. Il y avait le cousin Ponce Pilate, la cousine Bette, les quatre fils Edmond, les frères Lumière, les sœurs Tourière, l'oncle Sam, les enfants d'Édouard Brumont, les filles de Lotte, les filles de Camaret, et celles de Minos et de Pacifae, et le gendre de Monsieur Poirier, la mère Michel Strogoff et le père Lustucru. On n'attendait plus que le père Ubu. Soudain, la porte s'ouvre, et c'est le père éternel qui entre. C'était le même. Vous parlez d'une histoire de famille, vous parlez d'un secret d'État. On n'aurait jamais cru chose pareille. C'est vraiment vrai qu'il est capable de tout, cet être-là. Mais le plus marrant de l'histoire, c'est qu'il avait le fils de l'homme sandwich sous le bras. Il l'a jeté sur la sainte table. Ah, les joyeux anthropophages, comme ils connaissent bien les usages.
Et les petits plats dans les grands, interprétés par Mainviel et Papanoche. C'est vrai que c'est facile, enfin on a l'impression que c'est facile, on a envie en tout cas de s'approprier les textes de Prévert pour en faire autre chose, et nombreux sont ceux qui l'ont fait d'ailleurs, notamment pour les mettre en chanson.
Ah oui, Prévert a été beaucoup mis en chanson, et dès le début, hein, dès qu'il a commencé à publier paroles, notamment par Cosma, mais aussi par son ami Christiane Verger, et puis par bien d'autres.
Puis il y avait le titre quand même du recueil Paroles qui appelle ça.
Alors Paroles, oui, le titre du recueil Paroles appelle à la chanson, mais pas forcément. Hein, ça veut dire aussi, mes textes ne sont pas faits uniquement pour être enfermés dans un livre. Ils sont faits pour en sortir et pour y retourner. Et comme il aime bien inverser les choses, eh bien, il a publié un recueil qui s'appelle Paroles. Voilà, c'est l'inversion toujours.
Mais est-ce que c'est vrai que il parlait comme il écrivait et qu'il écrivait comme il parlait? Parce que vous nous avez dit tout à l'heure qu'il travaillait beaucoup, et en même temps il y a ce style oral. Et puis on sait que c'était un très grand improvisateur.
Alors, je ne dirais pas qu'il écrivait comme il parlait. Ça se ressemble. Disons que oui, tous ceux qui l'ont connu ont dit que c'était un. Il parlait de manière absolument géniale et que ça pouvait durer très longtemps et tout le monde était fasciné par ce qu'il disait. Mais quand il écrit, c'est très différent. Quand il écrit, il retravaille les textes, comme je le disais. Il cherche le mot juste. Ça ne sort pas comme ça d'un jet, ou ça sort peut-être d'un jet, mais après on retravaille le premier jet. Donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait l'équivalent.
Mmh. Et alors tout à l'heure vous parliez du style cinématographique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de poèmes où on a l'impression de lire une succession de plans. Est-ce que c'est conscient ça chez lui?
Ah mais oui, très certainement. Je crois que tout est conscient chez lui. Par exemple, quand il écrit la chasse à la baleine, on a vraiment une succession d'images, hein, et ça pourrait faire l'objet d'un dessin animé.
Voilà le père sur la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère, et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière. Ça pourrait être un dessin animé.
Tout à fait, tout à fait. Et on a même le lien entre la soupière renversée et la baleine en colère, hein, qui est une sorte de montage alterné comme on a au cinéma aussi.
Mais il y a aussi les trois premiers vers d'Alicante, hein, que vous citez toujours dans votre introduction. Une orange sur la table, ta robe sur le tapis et toi dans mon lit. Même chose, ces trois plans successifs, c'est du cinéma.
C'est du cinéma, c'est du cinéma.
Ouais. Est-ce qu'on peut parler de caméra stylo alors avec lui?
Oui, on peut parler de caméra à stylo, mais aussi d'autres choses. Hein. Je crois que ces textes sont très riches et très divers. Et puis, il y a les collages aussi dans les textes. Hein. Il fait des collages de noms de rues, de titres, d'expressions toutes faites. Et il en fait des textes. Vous savez qu'il a même fait un poème à partir de Didascalie de Shakespeare.
Mmh.
Tout à fait étonnant.
Donc il y a ce travail sur la langue qui bouleverse nos perceptions habituelles et qui détruit un petit peu les images dominantes. Est-ce qu'on peut parler d'une destruction de la domination par le langage ? Parce que il arrive quand même avant toutes ces théories qu'aujourd'hui on connaît davantage, mais on a l'impression qu'il en a l'intuition finalement de cette domination par le langage.
Tout à fait, je crois qu'il était très en avance sur son temps à ce sujet, parce qu'il pense qu'il faut se méfier du langage tel qu'il nous est donné. Il faut se méfier des lieux communs, des proverbes connus, des citations connues, parce qu'il pense qu'il véhicule une idéologie assez passéiste. Et donc il invite à réinventer le langage et il le fait lui-même. Il détourne donc quelquefois les citations, les expressions toutes faites. Il y a un exemple que moi j'aime beaucoup, c'est la célèbre citation de Pascal. L'homme est un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Et Prévert réinvente cette citation de Pascal en disant « La femme est une pensée, la plus forte de la nature, mais c'est une pensée dansante. Mmh. » Et il faut préciser que sa femme était danseuse, d'ailleurs.
Bah, c'est vrai qu'il s'en prend un peu à la tyrannie du masculin dans le langage, bien avant l'écriture inclusive d'aujourd'hui.
Oui, ça revient très très souvent. Dans Les Chiens en soif, on a des oiseaux qui disent l'homme, toujours l'homme, qui se nomme et se dénomme en oubliant la femme. Et lui-même, il préférait d'ailleurs dire les humains, quand il voulait désigner l'humanité, plutôt que l'homme ou les hommes.
Eh ben oui, et puis il n'aimait pas non plus qu'on traite les gens d'âne ou de cochon, parce qu'il trouvait que c'était faire une injure finalement à ces animaux qu'il aimait tant.
Ça, c'est sa défense des animaux, effectivement. Oui, il y a le fameux poème Cater. Ils ont insulté les ânes, les cochons, les poulets, mais les chats, ils n'ont pas osé.
Donc, il faut utiliser le mot juste. C'est important.
Il faut utiliser le mot juste et puis il faut se méfier du langage figé, des expressions toutes faites. Il faut se méfier de ça.
Au long des jours, les feuilles mortes et les amours. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui me mets. Et nous vivions, nous deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie, c'est pas ce qui s'aime, tout doucement.
Pas facile à couper, hein, ce genre de chanson. Les Feuilles Mortes, réinterprétées par les Peters Sisters, Daniel Casiglia Laster. Il y a toute une question de rythme quand même dans la poésie de Prévert qui fait que on a envie de la chanter. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le rythme qui est aussi calembour, qui est aussi contrepèterie, qui est un peu pataquès?
Mais les calembours, comme je vous expliquais tout à l'heure, ils sont quelquefois très fins. Hein, on peut les interpréter au deuxième ou au troisième degré. Après, quelquefois, ils s'amusent. Hein, c'est vrai qu'il y a des gros calembours comme ça qui sont faits pour le plaisir. Et pour le rythme, alors je crois qu'ils jouent beaucoup sur les sons, sur l'identité des sons. On trouve quelquefois aussi des alexandrins blancs dans son texte.
C'est quoi un alexandrin blanc?
Un alexandrin blanc, c'est un alexandrin qui ne rime pas, comme par exemple, le jardin reste ouvert pour ceux qui l'ont aimé. Hein, c'est un alexandrin qui termine un de ses poèmes et que moi j'aime beaucoup. Mmh. Et bien on en trouve beaucoup comme ça.
Parce que c'est moins pompeux justement, parce que c'est plus accessible au fond à tout le monde ou à l'oreille.
Oui, bien sûr. En fait, il se méfie un peu des alexandrins parce que c'est la poésie classique et que effectivement ça peut avoir quelquefois un aspect pompeux et puis faire peur à certains. Mais il l'utilise aussi par moments.
Mmh. Il aime la langue populaire, évidemment, qui s'oppose à la langue savante. Mais c'est quoi le rapport de Prévert à la vulgarité?
Alors, il a écrit des sortes de petits aphorismes auxquels il a mis le titre « vulgaire ». Il défend la vulgarité parce que dans Vulgus, il y a peuple. Et pour lui, le peuple, c'est tout de même le plus inventif. Et il pense que le peuple est beaucoup plus inventif et beaucoup plus créatif que certains intellectuels.
Mais il ne veut pas reconnaître, par exemple à Cocteau, comme on l'a vu hier, une autre forme de poésie. Est-ce qu'il n'y a pas un côté sectaire aussi chez lui?
À l'égard de Cocteau?
Je sais pas, mais enfin à l'égard de ce qu'il considère comme étant trop précieux, je pense, ou pas assez populaire, précisément.
Non, je pense pas, puisque comme je vous disais, il aime Proust, il aime beaucoup d'auteurs qui sont considérés tout de même comme des auteurs très intellectuels. Donc, il y a les deux. Je pense que Prévert aime à la fois les textes populaires, il aime beaucoup Eugène Sue, et puis il va aimer des auteurs beaucoup plus... considéré, beaucoup mieux considéré.
Parce que le langage du peuple, c'est pour lui le génie instinctif qui trouve tout de suite l'image juste.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il aime beaucoup le langage populaire et il trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans ce langage. Et que c'est un langage qui bouge tout le temps aussi, qui est beaucoup moins figé que le langage savant.
C'est bien, au fond, René, qu'aujourd'hui... Je ne sais pas comment c'était autrefois la poésie. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Toutes les familles dignes de ce nom ont un poète. Et puis, il y a tellement de jurys de poésie. Et un jury, c'est toujours pour condamner, ou bien pour porter un triomphe, mais acquitter en quelque sorte. Mais au fond, ça ne se passe pas comme ça, parce que c'est malgré tout un tribunal. Tu es venu me demander de publier ce que tu appelais des poèmes. Moi, mon métier, à ce moment-là, c'est celui que je préférais, et peut-être que je préfère encore, c'est le cinéma. Mais aujourd'hui, les poètes sortent de Sciences Po, ou d'autres choses, enfin, de Sciences Po éthique. Mais c'est l'éthique, c'est la morale des poètes. Mais ce qu'ils oublient, c'est l'éthique. L'éthique de la peau, la poétique, par exemple. Et alors, ils séparent toujours... L'âme du corps, c'est toujours pareil, il faut toujours qu'ils expliquent l'existence de celui du grand critique qui est là-haut et qui nous juge, ou avec des trompettes, ou avec n'importe quoi. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui veulent être poètes maudits en même temps, mais bénis, que ça tourne ensemble, que ça s'arrange, et que tout de même les gens reconnaissent en quelque sorte qu'ils sont les premiers. Alors comme ils discutent, ils sont en train de... Moi, qu'est-ce que ça me fout, moi, personnellement, qu'est-ce que c'est, enfin... Je sais pas, mais ils ont un permis de chasse. Moi, je m'en fous, moi. Je suis braconnier.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
On est même au-delà du sens de la formule. Avec Prévert qui répondait à son premier éditeur, René Barthelet, dont on parlait tout à l'heure, Daniel Cassigy-Alaster. Qu'est-ce que c'était alors la poésie pour lui? Il en a donné une définition et vous la citez dans votre introduction. Est-ce que vous l'avez en tête ou à peu près?
Oui, la poésie, c'est ce qu'on rêve, ce qu'on imagine, ce qu'on désire et ce qui arrive souvent. Hein. Je crois que c'est quelque
exactement.
Chose comme ça.
Et il ajoute, la poésie est partout comme Dieu n'est nulle part.
Oui, exactement aussi.
Bon, mais il dit aussi, la poésie, c'est la vie, mais on ne sait pas ce que c'est que la vie.
On ne sait pas ce que c'est que la vie, on ne sait pas ce que c'est la poésie. Enfin, il a horreur des appellations contrôlées. Et il se demande pourquoi on qualifie un tel ou un tel de poète, et puis pas un grand cinéaste comme Charlie Chaplin. Il trouve que Charlie Chaplin est un poète, il trouve que le musicien Handel est un poète. Il trouve que la poésie, au fond, elle est un peu partout, comme Dieu n'est nulle part, justement.
Elle est un peu partout, elle est un petit peu dans la rue aussi. Il y a les clochards célestes qui l'intéressent beaucoup.
Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, il trouve que, bon, il dit que c'est dans les bas-fonds qu'on pousse les hauts cris, hein. Et il trouve que les balayeurs, les gens de la rue sont souvent de grands seigneurs.
Ouais.
Et que les grands seigneurs, il faut pas les chercher chez les bourgeois ou chez les aristocrates, mais il faut les trouver dans la rue.
Les balayeurs sont de grands seigneurs noirs en exil, écrit-il.
Qui font la toilette du ruisseau, oui, c'est très très beau.
Alors ça nous amène à Paris, ça évidemment. Vous avez écrit deux livres sur ce grand sujet de Paris et de Prévert. Alors on a tous les Paris hein, avec lui. Il y a d'abord peut-être le Paris de l'enfance, celui du jardin du Luxembourg.
Ah oui, 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 enfant, il se promène très vite tout seul dans Paris. C'est une sorte de petit Gavroche, hein, Prévert. Enfin, un petit Gavroche avec des parents tout de même beaucoup plus sympathiques que les Thénardier.
Oui, puisqu'il se balade avec son père dans Paris, notamment.
Oui, 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 il aime beaucoup son père et sa mère, qui sont des gens très sympathiques. Et le jardin du Luxembourg, il habite à côté. C'est vraiment son jardin, ça devient son jardin. Et il est très triste quand le jardin ferme et qu'il faut s'en aller.
Et vous racontez ça très bien dans Paris Prévert, chez Gallimard. Vous évoquez un peu tous ces paris. Il y a le Paris de l'adolescence aussi.
Il y a le Paris de l'adolescence. Alors, il a dit qu'il fallait rester discret sur ce Paris de l'adolescence parce que à ce moment-là, il fréquente des petits voyous, comme on dirait, qui sont pas toujours fréquentables. Mais là aussi, ben, il va de plus en plus se promener dans Paris, dans tous les coins de Paris. Et Prévert défend tout Paris, c'est-à-dire pas seulement les rues les moins connues, les quartiers pauvres, mais aussi les quartiers touristiques. Hein. Il trouve que tout est beau dans Paris.
Et oui, et notamment Notre-Dame de Paris, qu'il aime beaucoup et qui le relie. Évidemment, comme on le fait tous à Quasimodo et à Victor Hugo.
Oui, il a adapté d'ailleurs Notre-Dame de Paris au cinéma.
Il y a d'autres lieux dans Paris qu'il aime beaucoup. C'est en général lié à des moments de sa vie. Est-ce qu'il y a un Paris surréaliste, par exemple, pour Jacques Prévert ?
Ah, le Paris surréaliste, c'est peut-être le Paris où il a vécu le plus longtemps, Cité Véron, puisque c'est près de... Il y avait le café Cyrano, tout près, où se réunissaient les surréalistes.
Donc Cité Véron, alors c'est pas encore quand il est à côté de du Moulin Rouge, ou est-ce que c'est cet
oui,
endroit-là ?
À côté du Moulin Rouge, et bon, ce Paris-là doit lui rappeler tout de même le Paris des surréalistes, puisqu'il y a le café Cyrano qui est tout près, et puis André Breton n'habite pas très loin non plus.
Oui. Et puis non, il faisait aussi beaucoup de fêtes sur le toit du Moulin Rouge, je crois.
Oui, avec Boris Vian qui était son voisin, et puis avec les gens du collège de pataphysique.
Mmh. Alors je vous propose quand même d'écouter une archive où on entend bien ce flâneur de Paris qui malgré tout est un petit peu triste de voir comment évolue sa ville préférée.
Et la chose c'est que on peut marcher dans Paris. Il y a encore des endroits merveilleux, intacts. Mais ils s'en vont. Supposons Arletty. Arlette, elle demeurait un des plus beaux endroits qu'ait Conti. On la virait. Elle dit, je regrette pas. Pourquoi ? Je pourrais plus rester, tellement il y a de bruit. Hein ? Alors les gens sont tout le temps avec des boules de caisse ou des trucs dans ce genre-là. Alors c'est pas possible, parce que ça radine à une vitesse. Si vous êtes, vous, au coin, mettons rue Dauphine. Puis vous regardez la place Saint-Michel. C'est pas la peine de lire un roman de science-fiction. C'est exactement ça. C'est des gros yeux qui s'attendent et puis ça descend à toute vitesse. On coupait compter 150 voitures qui débarquent, puis faut traverser. Alors, c'est héroïque. Hein. C'est merveilleusement héroïque de traverser les rues aujourd'hui. Hein. On devrait avoir toujours des médailles. Hein. Nous risquons tous les jours notre vie dans des choses exemplaires. Hein. Eh oui, c'est ça qui est formidable. À part ça, c'est drôlement emmerdant de voir Paris tel qu'il est. Hein. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ça devient de plus en plus crado. C'est juste. C'est un parking épouvantable. Si encore les gens pouvaient traverser, mais non. Les gens ont leur voiture. Ils sont tous très contents. C'est une grande ferraille. C'est un grand marché perpétuel. Mais c'est triste quand même si on aime cette ville. Les autres villes, alors l'ennui. On dit, mais ailleurs, c'est pareil. Mais ce qu'avait Paris autrefois, c'est que c'était pas pareil que les autres villes. Tant que maintenant, hein, C'est pareil. Je m'en fous qu'on appelle quelque chose un snack bar plutôt que bistrot. Mais c'est la même chose, la même chose, la même chose, par exemple. Alors, c'est embêtant.
Mais est-ce que vous croyez que vous pourrez encore appeler Paris, Paris la Belle, quand même, alors?
Ah oui, bien sûr.
Oui.
Oui, parce que tout le monde a le temps d'être deux ou trois fois centenaire, hein, ça sera pas abîmé complètement, quand même. Et les filles sont toujours aussi belles.
Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens.
C'était un peu l'assassinat de Paris quand même qu'on entendait là. Il a l'impression que son Paris a disparu, non ?
Mais tout à fait. Bon, les halles ont disparu. Il voit des trous partout. On enlève des vieilles maisons. Et puis l'invasion des voitures aussi. Il le dit. Pour lui, Paris doit se faire à pied. Il adore la marche dans Paris et il pense qu'il faut découvrir Paris en marchant un peu partout, en parcourant des kilomètres dans Paris. Et ça, c'est fini. Les gens se déplacent en automobile ou en moto.
Bon, maintenant, c'est plus le cas. Hein.
Non, là, c'est plus le cas.
Il serait très content, sûrement.
Il serait peut-être content, oui. Et vous avez remarqué aussi, on dit plus bistrot, on dit snack bar.
Et maintenant, aussi, on redit bistrot, en fait.
Oui, on redit bistrot, mais il y a tout de même beaucoup de mots franglais qui ont remplacé les mots, les vieux mots français. Et ça aussi, il aurait été malheureux, je crois.
Il n'y a pas un petit côté réac, quand même, chez Prévert, non?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense pas que ce soit de la réaction. C'est-à-dire que, bon, voilà, c'est vrai que une ville qui se modernise et qui ne fait pas toujours attention à son patrimoine, eh bien, c'est triste. Il le dit.
Alors, qui sont, parce que finalement, ce qui compte dans une ville, c'est les femmes. Hein, il l'a déjà dit, je crois, dans l'émission d'hier en archives. Qui sont les 15 femmes de la Fontaine des Innocents, ce beau poème qu'on trouve dans le volume de la Pléiade que vous avez dirigé, Daniel Castiglia-Laster?
Les 15 femmes de la Fontaine des Innocents, bon, je pense que ce sont des femmes tout de même pas mal imaginaires. Il aimait beaucoup les jolies femmes. Hein. Voilà, il rencontre une femme dans la rue, il la dépeint. On s'est demandé qui était la fameuse Barbara du poème « Rappelle-toi Barbara ».
Oui. Bah,
il a dit « Toutes les femmes en Bretagne s'appellent Barbara ». C'était une manière d'évacuer un petit peu les choses.
Oui, c'est pas tellement vrai, je crois.
Non, c'était une manière d'évacuer la question.
15 femmes, je vous le dis comme c'est, m'attendent chaque nuit à la Fontaine des Innocents. J'ai qu'à tendre les mains comme un panier d'osier. L'osier attire l'osier, elles mettent l'osier dedans. Oh, je vous vois venir, bonnes et braves gens. Il ne doit rien se refuser, cet homme, avec tout cet argent. Si ça vous intéresse, ce que je fais du fric, je le mets dans mon froc et j'attends l'heure du marché aux fleurs. Et quand c'est l'heure, j'achète des fleurs, des tapés de fleurs et je prends le train à la Gare de l'Est. Oh, vous ne savez pas ce que c'est à Paris que la Gare de l'Est. Oh, vous ne devez plus le savoir. Je n'ai pas résisté à l'envie de vous lire un extrait de ce poème de la Fontaine des Innocents, parce que Paris et les femmes, c'est au cœur de toute la poésie de Prévert, tout comme les marchés parisiens, tout comme le métro, tout comme les chansonniers aussi. Mouloudji, on pourrait peut-être terminer là-dessus, Daniel Castiglia-Laster.
Mouloudji a beaucoup chanté Prévert, et vous savez que c'est le seul qui chante les feuilles mortes dans son intégralité.
Ouais. Et ben ça donne envie de le réécouter. Merci beaucoup, Daniel Castiglia, pour s'offrir un bain de Prévert. On peut évidemment se référer non seulement à la Pléiade, dont vous êtes occupé chez Gallimard avec Arnaud Laster, mais aussi évidemment pour se replonger dans le Paris de Prévert, lire les deux livres que vous avez écrits à ce sujet, l'un chez Gallimard et l'autre aux éditions Alexandrine. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet et Ludovic Auger. Demain, nous évoquerons Prévert, l'amitié et l'engagement en compagnie de la grande spécialiste de son œuvre, qui est également Carole Horouet.